Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Jean chapitre 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette lecture, et j'aimerais justement parler à nouveau du caractère chrétien, de la manière dont nous réagissons, de la manière dont Dieu attend que nous réagissions et que nous portions dans nos paroles, dans nos actions et réactions, nos attitudes et comportements, l'esprit de l'Évangile. Les quatre évangélistes rapportent l'événement. Vous aurez tout le loisir de retrouver cela en relisant ce passage. Si vous avez une Bible à parallèle, vous retrouverez très facilement. Dans l'évangile de Matthieu, le texte nous est donné de cette manière. Il nous est parlé d'un disciple anonyme qui tire son épée, qui emporte l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, et aussitôt Jésus donne l'ordre de remettre l'épée à sa place. Et à la suite de cela, il fait deux réflexions. La première, il nous rappelle un principe essentiel biblique, que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et la deuxième remarque que Jésus fait dans l'évangile de Matthieu, c'est que pour un chrétien, pourquoi une épée ? Ce qui suppose que Jésus, qui va bientôt être saisi et emmené, jugé, condamné et crucifié, fera cette réflexion et dira « Mais ne pourrais-je pas invoquer mon Père qui est dans les cieux, et il m'enverrait 12 légions d'anges ?» Alors vous comprenez que 12 légions d'anges contre une épée, l'épée ne fait pas tellement le poids, pour nous montrer toute la puissance naturellement de Jésus. Dans l'évangile de Marc, il est donné, c'est le même rapport sans commentaire, c'est comme Matthieu. En ce qui concerne Luc, il y a plusieurs conséquences, ou il y a plusieurs compagnons, qui demandent à Jésus l'autorisation de frapper de l'épée, mais l'un d'eux, qui est plus rapide que les autres, va dégainer et emporte l'oreille droite du serviteur. Il ne vous a pas dit qui est ce serviteur. C'est un petit peu un tour d'horizon que nous faisons sur la manière dont les choses sont présentées. À ce moment-là, dans l'évangile de Luc, Jésus va toucher l'oreille et il guérit instantanément le blessé. Donc l'incident est clos. En ce qui concerne Jean, là où nous avons choisi de faire notre lecture, Jean désigne Simon-Pierre comme l'auteur du geste. Et il est identifié, la victime, dans cet évangile, c'est Malchus. Et comme Matthieu, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. » Et c'est sur ce texte que je voudrais justement que nous méditions ce matin. « Remets ton épée dans le fourreau. » Ça veut dire beaucoup de choses. Alors nous allons voir ça. L'épée est avant tout une arme de guerre pour se battre, se défendre, mais aussi pour tuer. Dans la Bible, l'épée, l'avez-vous remarqué, est citée plus de 130 fois. La première mention de l'épée remonte au livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 24, quand il est parlé d'une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. C'est tout de suite à l'entrée dans notre Bible. Il y a naturellement, et ça c'est mémorable, il y a l'épée de Goliath, qui était plus grande que toutes les autres. Dans le Nouveau Testament, l'épée est comparée à la parole de Dieu, vous le savez. Puis dans l'Apocalypse, il est dit qu'une épée sort de la bouche du vainqueur, c'est-à-dire de la bouche de Christ. Alors c'est pour vous dire que sur les 130 fois, j'ai choisi que 3 ou 4 exemples. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur naturellement bien d'autres choses. Hélas, l'histoire de l'humanité résonne du bruit des épées. Dans l'Ancien Testament, pour le néophyte qui lit peut-être la Bible pour la première fois, il se dit « Mais misère ! C'est un livre de Dieu, c'est un livre saint, et on ne parle que d'épées, de combats, de guerres. » Le premier à s'en servir s'appelle Caïn. Alors, je ne sais pas comment il a tué son frère, mais enfin, en tous les cas, le geste est toujours la même chose, c'est le meurtre. Et quand on associe l'épée au meurtre, en tous les cas, c'est le premier à s'en servir. À ce moment critique, Dieu intervient pour empêcher la violence de mener le monde au désastre total. Et là, il va donner, après le premier meurtre, il va donner des règles. Il va imposer des règles. Plus tard, quand Dieu refait le monde, et vous savez qu'il l'a refait au moment du déluge, alors à ce moment-là, il va enseigner à un homme qui s'appelle Noé. Il est du Zédic de Noé, il était le prédicateur de la justice. Alors il va enseigner Noé que si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc c'est toujours, quelque part, en filigrane, eh bien là, l'image de l'épée, l'image d'un jugement, d'une condamnation, parce qu'il y a eu, justement, eh bien, le sang versé. Première règle de la loi du respect de la vie, qui est donnée. Ensuite, à Israël, cette norme stricte de justice, œil pour œil, dent pour dent. On pourrait bien y ajouter, c'est moi qui paraphrase, mais épée pour épée. Ça revient au même, de toute façon, ça veut dire la même chose. Dans le Nouveau Testament, Paul déclare que les autorités qui existent, vous reconnaîtrez naturellement Paul dans Romains chapitre 12, que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu et que ce n'est pas en vain que le magistrat porte l'épée. Alors peut-être que c'est un problème aujourd'hui pour bien des gens en ce qui concerne la peine de mort. On se dit, mais que faut-il faire? C'est un véritable débat, c'est un véritable dilemme. Et le magistrat qui porte l'épée, nous le reconnaissons naturellement à travers l'application actuelle de la justice par les tribunaux, par la police, par les prisons, les forces armées, dans le maintien de l'ordre social ou dans le maintien de l'ordre public, et tout simplement pour la défense du pays. Je ne connais pas de pays qui n'a pas d'armée. Parce que c'est quelque chose qui semble, dans le contexte comme le monde existe, ça semble impossible. Alors maintenant, les épées d'aujourd'hui n'ont plus du tout la forme du glaive de dans le temps, mais c'est des mirages, c'est des super étendards, ce sont des exocètes, ce sont des scuds. Enfin, vous voyez un peu, mais c'est toujours une épée. Hein. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, le résultat est toujours le même. Il y a deux principes rivaux que j'aimerais justement que nous nous rappelions ce matin. Deux principes rivaux se livrent bataille. C'est la force des armes et la douceur, ou vaincre en aimant. Alors vous avez d'un côté les processus et les procédés humains, et puis d'un autre côté, vous avez l'esprit de l'Évangile. Je le répète, il y a la force des armes, et puis il y a à côté la douceur, qui est une arme infiniment plus redoutable que n'importe quel canon ou avion ou porte-avions, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire vaincre en aimant. La démonstration de ce principe révolutionnaire, parce que c'est une véritable révolutionnaire, et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est encore révolutionnaire, dans un monde où la barbarie tient encore sa place, Jésus change les donnes du problème. C'est pour ça qu'il y a encore des guerres. Si, depuis 2000 ans, les hommes avaient écouté Jésus, je crois qu'il y aurait, depuis bien longtemps, un désarmement général. Que le sang aurait cessé de couler sur la terre, en tous les cas par le moyen de la guerre. Alors comment Jésus nous en parle? Comment il a changé les donnes du problème? Eh bien c'est très simple, je voudrais simplement rappeler un texte pour mémoire. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48, une dizaine de versets. Écoutez bien, simplement laissez-vous, je lis le texte, vous le retrouverez si vous voulez les références. Mais écoutez bien et imprégnez-vous de cette pensée, quand Jésus nous parle, finalement, de cette force qui est la force d'aimer, la force de la douceur. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est dur quand on vous fait du mal, même quand on est chrétien. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, ne faites-vous rien d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait, nous dit ce passage. Alors on dit Amen. Et qu'est-ce que l'on fait après? On continue à dire Amen? Parce que là, on le lit. Mais quand on se trouve confronté à ce genre de situation, on dit « Amène-moi-le, Seigneur, je vais lui régler son compte. » Hey, parce que quelquefois, vous savez, il y a des blessures, il y a des meurtrissures, il y a toutes sortes de choses, il y a des indélicatesses, il y a des impolitesses, il y a des choses conscientes et des choses qui ne sont pas conscientes. Alors c'est vrai que ce message est éloquent et il est révolutionnaire. Pour une révolution, c'en est une. Quand vous avez quelqu'un qui vous fait du mal et qui prend plaisir à vous faire du mal, qu'est-ce que vous allez lui faire? Ceux qui héritent la terre, nous dit Jésus, ne sont pas les violents. Ce ne sont pas les cupides, mais ce sont les, ça commence par un D, les débonnaires. C'est-à-dire en d'autres termes, les doux. Ce sont les débonnaires. Selon le principe de Jésus, qu'est-ce que veut dire prospérer? Eh bien, c'est donné et non accaparé. On ne hait pas ses adversaires. On les aime et on les bénit. Alors Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me donnes un coup de main. J'ai vraiment besoin que tu m'inspires. J'ai vraiment besoin que tu contrôles mes réactions. Parce que tu connais mon caractère, je suis volcanique. Et des éruptions, il y en a quelquefois. Hein. Alors on les aime et on les bénit. Celui qui a dit cela, c'est le plus grand de tous, et il l'a dit et il l'a fait. On est d'accord avec Jésus. Il l'a fait. Jusqu'à l'extrême limite que l'on appelle la croix. Et il dira ces mots, « Mon royaume n'est pas de ce monde, car si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Quand un roi, un prince, est menacé, eh bien, il fait intervenir ses armées, ses soldats. Mais Jésus n'a rien demandé, bien qu'il nous dise 12 légions d'anges. Alors, ça fait combien? Une légion, ça fait 10 000 hommes, hein, je crois. Hein. C'est ça, non? Qui c'est qui a fait son service militaire? Il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est pour ça qu'il faut envoyer les dames au service militaire. Il n'y a pas assez de soldats. 12 légions d'anges, c'est quelque chose. Il me semble qu'une division, je ne sais pas si elle doit faire 10 000 hommes, quelque chose. Alors, voyez un peu la quantité de personnes. Alors, Pierre, pourquoi a-t-il sorti son épée? Pierre, pourquoi es-tu sur la défensive? Et quand je parle de Pierre, je parle à tous les Pierres et à toutes les Pierrettes qui sont autour de moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'espère que personne ne s'appelait Pierre et Pierrette. Pourquoi tiens-tu ton épée à la main? Parce que le réflexe instinctif est encore si vif. Et le réflexe instinctif de ma vie, même si je suis chrétien, c'est toujours de revendiquer et de dire ceci, mais j'ai droit à ceci. Ceci est à moi, c'est ma place, c'est mon tour, je ne l'aime pas vraiment, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, je pense que ceci, cela, etc. Qu'est-ce que l'on fait? On ramène tout à nous. Et malheur à celui qui vient un petit peu percuter, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il ne pense pas comme moi, et voire même parce qu'il ne croit pas comme moi, alors à ce moment-là, je suis prêt, j'ai presque l'épée à la main pour dire, eh bien écoute, hein, tu marches ou tu marches pas, mais si tu marches pas, fais attention, je te montre que l'épée n'est pas loin. Et ça doit être quelque chose qui doit être aboli parmi le peuple de Dieu. Parce que des gens qui ne pensent pas comme nous, il y en a à voir. Et il y en aura toujours. Des gens qui ne pensaient pas comme Jésus, il y en a eu. Et il s'est même laissé crucifier par eux. Alors c'est vrai que nous avons toujours cette tendance, et ça elle est instinctive, elle est humaine, elle est charnelle, elle est naturelle, de toujours mettre en avant nos droits. Et c'est vrai que nous avons des droits, Dieu nous a donné des droits, il nous a donné des choses formidables. Mais est-ce que c'est en raison de cela que je dois finalement, eh bien, imposer ou m'affirmer et voire même menacer? J'ai toujours raison, donc il a toujours tort. Voilà. Voilà que les épées sont sorties du fourreau Et il faut bien que la vérité soit faite. Quand je suis convaincu d'une chose et que l'autre n'y est pas, quitte à l'y aider d'un petit revers de l'âme bien senti. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, hein? Avance. Oui, mais c'est oublier que nous ne sommes pas des justiciers. Et que s'il y en a un qui doit faire justice, c'est le Seigneur. Et nous avons tous, certainement dans nos vies, beaucoup de choses à dire, de choses qui sont vécues, des choses que nous avons vécues, où nous avons eu maille à partir avec des gens qui étaient méchants, des gens injustes, des gens qui nous voulaient du mal, des gens quelquefois qui nous entraînaient devant les tribunaux, ce qui est arrivé à certains. Et à ce moment-là, d'apprendre à se confier en le Seigneur et de remettre notre épée dans notre fourreau en disant « Seigneur, c'est toi qui vas faire les choses ». C'est pas facile, hein? Pas facile parce que l'injustice fait souffrir au plus haut point. Alors, Jésus de dire à Pierre, « Bien moi, Pierre, je te demande de remettre ton épée dans le fourreau, tout simplement. » J'aurais envie de m'adresser à tous les pierres de la terre et de lui dire « Pierre, écoute la leçon de la croix. » Parce que la leçon de la croix, vous savez, une croix, c'est une forme d'épée. Hein. On peut la prendre comme ça. Hein. Une croix à l'envers, hein, naturellement. Écoute la leçon de la croix. Remets ton épée dans ton fourreau. Vous pourrez lire, j'ai mis un petit poème. Parce que moi, j'aime bien les poèmes. C'est un petit peu ma tendance. Je l'ai mis, vous le lirez. Il est sur le tableau d'affichage. Vous verrez, c'est un poème que j'aime beaucoup. Sur la manière... finalement, de suivre l'exemple de Jésus. Le geste de Pierre est peut-être héroïque. C'est vrai. Dans une situation, il voit son maître qui est pris. Il se dit, mais il faut que j'aille le sauver. Mais il est inopportun. Et il y a bien des choses qui, quelquefois, peuvent avoir l'apparence d'être justes et même justes. Mais quelquefois, la manière dont nous procédons, dans la forme, c'est inopportun. Vous comprenez ce que ça veut dire, inopportun, naturellement. Tout son amour pour son maître, menacé si injustement, et c'est un coup d'épée dans l'eau. Eh oui, parce que le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as à faire avec cette épée? Est-ce que moi je t'ai demandé d'intervenir pour me sauver? Ne sais-tu pas? Ne te souviens-tu pas de ce que je t'ai dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout? Jusqu'à la mort? Alors qu'est-ce que tu fais là? C'est une barrière pour m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, notre Pierre, probablement, n'a pas compris ce qu'il faut comprendre quand on est un disciple de Jésus. Jésus ne veut pas être défendu, frères et sœurs. Et ça, il faut que nous en souvenions. Jésus n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu n'a pas besoin que le défende. Il est assez grand pour se défendre tout seul. Parce qu'à chaque fois que nous avons voulu défendre un parti d'une manière ou d'une autre, nous avons fait plus de mal que de bien. C'est l'histoire des hommes. L'histoire de la religion des hommes. L'histoire du christianisme. À chaque fois qu'on a fait des choses dans ce sens, eh bien, on a augmenté le mal. Et il y en a un qui nous attend. C'est le diable, parce que lui, il veut que nous prenions l'épée. Et il veut que nous chargions les armes. Il veut bien entendre le cliquettement de toutes nos armes de guerre. Parce que ça le réjouit, puisque c'est le prince de la mort, c'est le prince de la guerre. Sa victoire à lui, la victoire de Jésus, il nous est dit qu'elle est d'un autre ordre. Ces armes sont spirituelles. Oui, pas autrement. À chaque fois que l'épée de la chair intervient pour la cause du royaume de Dieu, et toute notre histoire, on est à l'école, hein, ce soit Charlemagne, et puis le reste, et puis tout ce qui va avec, toutes nos armées très chrétiennes, on sait ce que ça faisait, hein. Eh bien, chaque fois que les hommes sont intervenus pour prendre la défense pour la cause du royaume de Dieu, chaque fois que les choses ont été faites d'une manière charnelle, eh bien, les tenants de l'épée ont déshonoré la cause de ce royaume. Et pour autant qu'elle prétend justement servir l'œuvre de Dieu, elle entraîne le discrédit et donne aux incrédules une occasion de se moquer de la foi. Ah, c'est ça les chrétiens? Vous leur montez un petit peu sur le petit orteil et ils commencent à monter sur leurs grands chevaux. C'est ça les chrétiens? Ah, quelle tempérance! Quelle patience! Quelle douceur! Alors ça, je crois qu'on ne mesure pas. Quelquefois, on y va tambour battant, on se dit, voilà, mais moi, je suis convaincu. Mais bien sûr qu'on est tous convaincus. Mais devant une telle chose, je ne peux pas. Il faut que je donne un coup de main à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Alors, quitte à prendre des choses qui nous tombent sous la main. Et puis, et là, à ce moment-là, eh bien, au lieu d'honorer Dieu, la cause du royaume, on discrédite celui que nous voulons défendre. on le discrédite. Mais c'est une occasion de moquerie. Alors, à tous les chrétiens tentés d'expédier leurs différends par une quelconque méthode charnelle, Jésus leur dit et nous dit « Remets ton épée dans ton fourreau ». Est-ce que peut-être quelqu'un a eu cette tentation cette semaine dans un coup de colère, dans un mécontentement, parce qu'il est humilié d'une manière ou d'une autre? Alors le Seigneur nous dit « Remets ton épée dans le fourreau, je vais m'occuper de la situation. Mais de grâce, ne sors pas ton épée, ça ne sert à rien. » Vous avez remarqué, Jésus ne dit pas « Jette ton épée, mais remets-la ». Il y a une différence entre jeter. Jeter, c'est abandonner, comprenez? Mais là, remets, tu n'y touches pas. Allez là, tu l'as, mais tu la gardes. Alors, en ce qui concerne le combat spirituel, puisque nous en parlions tout à l'heure, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, il est donné ce texte, et c'est Paul qui dit ceci, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, vous rendez compte ? Qu'est-ce qu'une épée pour renverser des forteresses ? Rien du tout. Mais par contre, les armes spirituelles sont capables de renverser des Jéricho, de fendre la mer Rouge, de mettre les armées en fuite, de démons naturellement, et toutes sortes d'autres choses. Alors nous allons maintenant brièvement examiner le danger bien réel de se tromper d'armes et parfois d'ennemis, parce que quelquefois on se trompe à la fois d'armes et d'ennemis. On tire sur des amis. On coupe la tête à ceux qui sont normalement à côté de nous pour nous aider, alors que finalement, eh bien là, on s'est complètement fourvoyé. Alors ça, c'est important. C'est important de connaître les choses. On l'a vu, Pierre tire l'épée parce qu'il ne supporte pas de voir Jésus arrêté. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous blessent, hein. Parce que la vérité, nous la gardons dans notre cœur, la justice, certains principes d'éthique, moraux et tout ça, on se dit « mais c'est pas possible !» Et ça peut nous mettre en indignation, et c'est une saine et juste indignation. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons recourir à la grâce de Dieu comme il convient que nous fassions avec des armes spirituelles? Ou alors, à ce moment-là, eh bien, nous allons faire comme Pierre, nous allons descendre d'un étage, et puis nous dire « eh bien voilà, il faut que je fasse absolument quelque chose, je me sens interpellé. » Vous savez que je voudrais lire une petite note. La violence et l'agressivité, c'est un signe de faiblesse chez quelqu'un. Alors que dans le monde, quand tu es agressif, combatif, battant, on dit, ben voilà un homme. Voilà un homme qui se défend, il se laisse pas monter sur les pieds. Mais pour, dans la vision que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, c'est exactement l'inverse. La violence et l'agressivité, c'est un signe de faiblesse. Et un chrétien qui perd le contrôle de lui-même, ça peut lui arriver, hein, c'est pardonnable. Mais qui continue et qui vit continuellement dans cet état d'esprit, alors là, c'est un état, c'est déjà différent. Mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Je ne juge pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est une faiblesse, c'est pas une force, hein. Ça paraît fort, mais finalement, c'est une défaillance. Là où il faut bien réfléchir à ce que nous faisons et disons, parce que nos intempérances ont des conséquences qui dépassent ce que nous croyons maîtriser. Par exemple, nous allons le voir maintenant dans ce qui s'est passé avec ce serviteur, c'est la confrontation entre l'innocence et l'injustice. Malchus, bon, il était là, on peut pas dire qu'on peut pas le tenir pour responsable d'être là, hein. Il était serviteur, il obéissait à son maître, il était là. On peut dire qu'il était quand même dans une position quasi d'innocence. Il était ni pour ni avec Jésus, il était là, tout simplement. Mais par contre, le geste de Pierre a été un acte d'injustice contre quelqu'un qui était innocent. La victime de Pierre, donc, c'est Malchus, et il devait y avoir probablement plus coupable que Malchus. Mais Malchus, à ce moment-là, à cette heure-là, se trouve à proximité immédiate, et c'est lui qui reçoit le coup. Comme quelquefois nous envoyons des choses, il y a des choses qui sont dirigées, et elles tombent sur d'autres. C'est terrible une chose pareille, parce que l'emportement est coupable et il est aveugle. Vous savez, vous l'avez vécu à Saint-Nazaire dans les bombardements, comme dans d'autres pays, hein. Quand on arrosait, quand il y avait des tapis de bombes qui voulaient nettoyer les régions et tout ça, hein, c'est terrible, hein, parce que les Américains ou les Anglais, ils faisaient pas de détails, hein. Allez, on prenait les avions arrivés, ils balayaient tout, ils nettoyaient tout, c'est tout, hein. Mais comme il y avait d'enfants sous les décombres. Je me suis laissé dire que dans les bombardements de d'Hambourg, hein, bon, c'était les Allemands, mais c'était les hommes aussi, hein, quand ils ont bombardé Hambourg ou Dresde, eh bien, il y a eu 80 000 morts en une opération. Vous vous rendez compte, 80 000 morts? C'était pas Hitler qui bombardait, là. C'était tout simplement des Allemands, des hommes, des femmes, des vieillards, etc., etc. L'aveuglement. On ne voit pas. Il faut détruire. C'est terrible, une chose pareille. C'est pour ça que je mets l'innocence et l'injustice en même temps, enfin, en confrontation. Imaginons la suite. Encore sur deux pensées qui s'opposent. La réparation ou accusation. Est-ce que je suis un réparateur ou je suis un accusateur? Si Jésus n'avait guéri aussitôt la victime, parce que c'était le dernier miracle de guérison que Jésus a fait, vous l'avez remarqué, hein, l'histoire de l'oreille, Pierre, l'imprudent, aurait entaché pour toujours et gravement le message de paix et d'amour que Jésus s'était efforcé d'apporter aux hommes. Ben oui, parce que Jésus s'est toujours efforcé d'apporter un message d'amour et de réconciliation et de paix. Alors que Pierre, qui était un des premiers disciples, lui aurait entaché pour toujours. Et ça aurait été certainement quelque chose, une tâche dans l'évangile. Mais Jésus vient, il guérit Malchus. Et ça, c'est formidable. C'est extraordinaire. Parce que Jésus nous dit qu'il n'est pas venu faire couler le sang, mais pour donner le sien. Et je crois que nous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas venus faire couler le sang, d'une manière ou d'une autre, enfin, d'une manière, c'est un euphémisme, hein. Mais nous sommes venus pour donner notre vie, pour les autres. Et Pilate, alors, n'aurait pas pu dire ces paroles devant tous. Je ne trouve rien de coupable chez cet homme par rapport à Jésus. Il aurait dit, oui, mais ses disciples, regardez, il a blessé un homme. Jésus a pu dire cette parole, mais j'ai rien trouvé de coupable. Et il a fallu qu'il y ait la guérison. La sainteté et la justice de Christ auraient été ternies à ce moment-là. Et quelquefois, c'est ce qui nous arrive, nous entachons la justice et la vérité de Dieu avec des choses qui ne sont pas spirituelles, que nous croyons spirituelles, mais qui ne sont pas spirituelles dans nos réactions. Encore une autre confrontation, la vengeance et la condamnation. Se venger est une réaction tellement fréquente, et quelquefois, ça part plus vite qu'on ne l'est pensé. Mais cela allume un feu. Et quand on allume le feu de la vengeance, ça s'éteint difficilement. Regardez les histoires de guerre dans le monde. Puis regardez quelquefois dans les familles. Il suffit d'une petite chose. Parce qu'on a été vexé, on a été contrarié. Parce que on a fait des réflexions et tout ça. Et puis alors on est animé d'un sentiment mauvais. Et puis à un moment donné, eh bien, on prend vengeance. On tire vengeance. Mais alors à ce moment-là, vous apportez du bois sur le foyer pour que ça brûle et que ça fasse encore un feu beaucoup plus grand. La vengeance produit le ressentiment et excite les haines. Et c'est pourquoi dans la parole de Dieu, dans Romains, il nous dit mais ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Il vaut mieux pleurer sur l'humiliation que de sortir l'épée. Et on est des enfants de Dieu quand on ne se venge pas. Et je dirais que il est interdit aux enfants de Dieu, là s'il y a une interdiction arbitraire, et je marque bien le fait, c'est de se venger. Tu sais, je t'attends, hein. Mais quand j'aurai l'occasion, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Pierre a eu la vie sauve. Et grâce à l'intervention de Jésus qui guérit l'oreille de Malchus. Sinon, Pierre était perdu. Est-ce que vous vous êtes imaginé ce qui aurait pu arriver à Pierre si l'oreille n'avait pas été guérie? Eh bien, certainement, vraisemblablement, il aurait peut-être pas été passé le même jour que dans la condamnation. Mais il aurait accompagné son maître tôt ou tard au supplice. Parfait de rébellion à l'ordre établi, si Jésus avait été crucifié pour n'avoir rien fait Pierre, dans ce cas, eh bien, il était justement condamnable. Mais heureusement que Jésus est intervenu, il a guéri l'oreille, et Pierre a été justifié par la guérison. Autrement, qu'est-ce qui serait passé? Alors, je ne sais pas s'il avait mérité, il aurait mérité la condamnation à mort, parce qu'il l'avait pas tué quand même. Mais en tous les cas, vous vous rendez compte, ça aurait été terrible, une chose pareille. Et blessé par surcroît le serviteur du souverain sacrificateur. C'était pas n'importe qui. On pourrait dire aujourd'hui, c'était un serviteur, c'était un officier qui était là auprès du grand prêtre. Ça aurait pu coûter cher, bien que Malchus soit comme tous les autres hommes, mais il avait une position, Malchus. Il était le serviteur du souverain sacrificateur. Il était mal parti. Enfin, une mauvaise action porte en elle son ferment de destruction et devient par son auteur ou pour son auteur une occasion de chute. Et vous savez, quand on porte le mal, on se prépare à chuter soi-même. Par son geste incontrôlé, Pierre s'est désigné à l'attention de la cohorte des soldats. Que quelqu'un qui sort une épée, qui coupe, qui fait couler le sang, ça se voit automatiquement. De cela que Malchus s'est mis à crier parce qu'il avait mal, puis que le sang et ça coule énormément, les soldats l'ont vu. Et à ce moment-là, nous avons besoin de nous en souvenir. Est-ce n'est pas l'amorce de son terrible reniement qui a trouvé son origine dans ce qu'il a fait à Malchus? Parce qu'il a fait un geste qu'il ne fallait pas faire. Et est-ce que ce n'a pas été ça, plus autre chose, qui aurait amené finalement, eh bien là, tout simplement Pierre à dire « Mais maintenant, je suis perdu !» Et il s'est mis, pour se défendre, eh bien, à dire « Mais cet homme, je ne connais pas en parlant de Jésus. » Écoutez bien, le texte est très clair, vous allez comprendre, c'est simple, parce que dans Jean chapitre 18 et au verset 26, il nous est donné la réponse précise. « Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent, écoutez bien, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, alors que Pierre était dans la cour, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. » Moi, je pense que dans le reniement de Pierre, il faut mettre en compte le geste inconsidéré de l'apôtre, et que là, à ce moment-là, il a eu peur pour lui, il a vu que son geste, même si Malchus était guéri. Mais néanmoins, il s'est dit, bon, on va s'en prendre à moi. Et c'est pour ça qu'ensuite, il a voulu se désolidariser de Jésus. Renier par peur d'être découvert. Renier par peur d'être jugé. Renier pour être condamné, de peur d'être condamné. Mais tout ça, c'est dans le cœur des hommes. Quelquefois, on a fait des choses que nous regrettons après coup y avoir réfléchi, et on ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Eh bien, ça, c'est vraiment l'attitude de Pierre, et Pierre, il nous ressemble. Les épées de tout homme, autant pour ceux qui en reçoivent les coups que pour ceux qui s'en servent, font pleurer. Et ça, il faut le dire, frères et sœurs, qu'à chaque fois, autant celui qui reçoit le coup d'épée que celui qui se sert de l'épée pour donner un coup, tôt ou tard, nous pleurerons. Parce que on ne peut pas blesser impunément. Celui qui va recevoir va pleurer parce qu'il a mal. Celui qui a donné, peut-être quelquefois dans une certaine inconscience, alors à ce moment-là, pleurera tôt ou tard. Parce que Dieu permettra, si c'est un enfant de Dieu, après avoir donné des coups d'épée, que lui aussi, à son tour, en reçoive. Et vous allez voir que ça ne fait pas le même effet de donner un coup que d'en recevoir. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est sûr, hein, ça n'avait pas le même effet. Hein. Et Dieu nous passe aussi par cette discipline. Il y a des histoires comme ça dans la Bible, hein, où certains pensaient être si forts. Comment il s'appelle, là, dans Corinthiens c'est Paul, je crois que c'est dans la première épître de Paul. Il y en a un qui a fait cette expérience, j'ai prêché là-dessus d'ailleurs. Il s'appelle Sosthène. Relisez bien l'histoire de Sosthène. Eh oui. C'est qu'après avoir malmené les autres, un jour, il s'est trouvé dans une cohue, et c'est lui qui a été malmené. C'est là où il s'est converti après. Il s'est dit, oui, quelquefois, et vous savez, l'épée, hein, c'est pas toujours celle qui est en fer, ou je ne sais quoi, hein, quelquefois, ça peut être la langue, ça peut être toutes sortes de choses. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, ça fait pleurer. Larmes de souffrance pour les uns, et puis, larmes de remords pour les autres, parce qu'au bout d'un certain temps, on se dit, mais c'est vrai. J'ai fait du mal, j'ai dit ceci, j'ai fait cela, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela, j'ai méprisé. Et je ne me suis pas aperçu que j'ai fait du mal. Alors il y a des gens qui pleurent avec tout ça, c'est vrai. Alors, si tu ne veux pas chuter, et si tu ne veux pas renier, et si tu ne veux pas pleurer un jour, Jésus te dit, et il nous dit, moi y compris, remets ton épée dans le four. Et surmonte le mal par le bien. Ouais. Nous sommes des enfants qui devons surmonter le mal qui existe, par le bien. C'est ça, je crois, le plus beau des caractères chrétiens. C'est pas le miracle, c'est pas bien que le miracle, nous glorifions Dieu. Hein, le boiteux qui marche, l'aveugle qui voit, le sycomore qui prend ses jambes à son cou, la montagne qui disparaît. Formidable, merveilleux! Mais moi, je crois que le plus grand miracle, c'est quand les cœurs sont transformés. Et que nous avons le caractère de Christ à l'intérieur de nous-mêmes et que nous portons les fruits du Saint-Esprit. Voilà qu'apparaît une grande question d'ordre pratique qui embarrasse souvent la conscience des hommes et qui plus est parfois la conscience des chrétiens. La question est la suivante. Comment vivre en chrétien dans un monde impitoyable? Parce que c'est quand même une jungle, hein, chez nous quand même. Enfin, chez nous partout. Hein, dans les affaires, dans toutes sortes de choses. Hein, c'est une compétition. Comment vivre de cette manière? À quelle loi recourir? La force ou la douceur? Si je revais l'armure de la force, ben, je vais me discréditer et puis je ne serai plus chrétien. Si je revais l'habit de la douceur, on va dire « Oh, c'est un idéaliste, il est béat, hein, c'est un chrétien, alors on peut le tondre de toutes les manières, vous comprenez ? C'est un mou. » Mais c'est pas parce qu'on est doux qu'on est mou. C'est pas parce qu'on est doux qu'on est un mouton. C'est pas parce que on a le caractère chrétien que on doit nous passer sur la tête et puis ceci et cela. Parce que la question elle se pose, hein, vous avez travaillé en entreprise. Vous travaillez en entreprise, moi je l'ai vu, on a eu quelquefois affaire à des gens, mais alors je peux vous dire, ce sont des lions, des tigres, des prédateurs. Hein. Puis ils ne regardent rien, je peux vous dire qu'ils sont prêts à utiliser n'importe quoi contre vous, même recourir à l'occultisme, pour vous mettre en l'air. Ah ça c'est clair. Alors, la force ou la douceur, l'épée tirée, ou alors l'épée de l'esprit. La véritable solution, Jésus la révèle, figurez-vous, il la révèle certes comme un idéal, mais qu'il est possible quand même d'approcher, parce que l'idéal, on est des hommes, et c'est vrai qu'il y aura toujours des choses qui restent toujours en deçà. Hein. Jésus, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Seigneur, nous souhaitons, nous y aspirons profondément, mais moi quand je me regarde franchement, je me dis, mais qu'est-ce que je suis vraiment au quatrième niveau en dessous, hein. Mais néanmoins, c'est un idéal. Et je bénis le Seigneur qui m'ait donné un idéal, parce qu'au moins j'ai une lumière devant moi. Et je le verrai, je le réaliserai de l'autre côté. Je pense que vous pensez un petit peu la même chose. On va le réaliser de l'autre côté. Mais en attendant, eh bien, c'est pas toujours facile. Comment faire? Eh bien, ça peut partir de ce raisonnement, si vous me permettez, c'est que l'amour produit l'amour, autant que la haine produit la haine. Et il faut que je sois conscient que si je suis un vecteur d'amour, il va y avoir de l'amour, même auprès de mes ennemis. Mais si je réponds à la haine par la haine, eh bien, je vais récolter de la haine. Et ça, c'est une loi. Et je dirais que ça, c'est un choix d'intelligence. Parce que je voudrais vous parler de trois choix maintenant. Il y a le choix d'intelligence, il y a le choix d'attitude et il y a le choix de vocation devant le problème qui nous occupe. Donc, le choix d'intelligence, c'est de dire, voilà, bon, j'ai telle réaction à prendre, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je prie, je demande au Seigneur de m'éclairer. Même si j'ai l'habitude de perdre la face devant les autres, c'est pas grave. Quelquefois, faut perdre la face. Alors, à ce moment-là, je vais avoir le choix de l'intelligence et je vais dire, voilà, l'amour répond à l'amour. Et moi, je veux honorer mon Seigneur et mon Sauveur. Et le Seigneur va nous donner de prendre le bon choix. D'ailleurs, l'exemple suprême, eh bien, c'est Jean au chapitre 13 qui nous le, enfin, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 13, quand il est dit cette parole, parce que je crois qu'elle est aussi très belle, verset 34, il est dit cette chose, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, et il est ajouté, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, si je sors mon épée, et que je donne un bon plat à mon ennemi, il va dire, ah, voilà un vrai chrétien. Peut-être qu'il dira, peut-être, voilà un vrai crétin. Excusez-moi l'expression. Parce que quand même, on fait pas ça. Excusez-moi, c'est pas de la provocation, hein. Parce que quand même, on ne fait pas ça quand on est chrétien. Il faut quand même avoir un choix d'intelligence. Devant l'offense, lorsque l'adversaire se refuse à la conciliation, le silence, je dis bien le silence, est préférable au jugement. Vaut mieux rien dire, se fermer la bouche. Plainte et reproche dans l'espérance d'une repentance. Ça, c'est un choix d'attitude. Je renonce à dire quelque chose, même que j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Mais à ce moment-là, je vais me tourner vers le Seigneur et c'est lui qui va régler le problème. Un choix d'attitude. C'est ce que nous dit Pierre dans chapitre 2 et au verset 19 et 21 quand il est dit ceci. 1 Pierre chapitre 19. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? C'est normal. Mais si vous supportez une souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez appelé, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même, en lui-même, nos péchés en son corps, sur le poids, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Eh oui. Ce que nous avons besoin de comprendre, ce n'est pas seulement un choix d'intelligence entre l'amour ou la haine, ce n'est pas seulement un choix d'attitude entre finalement régler mes comptes ou le silence. Et puis il y a aussi cette troisième approche, autant que cela dépend de nous, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais autant que ça dépend de moi. La septième béatitude que je vais vous rappeler ouvre une carrière difficile mais prometteuse d'un titre glorieux éternel, et ça c'est un choix de vocation. Quand Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est un choix de vocation. Je veux être un fils de Dieu, j'en suis un ou j'en suis pas. C'est un choix de vocation, choix d'intelligence, choix d'attitude et choix de vocation. Alors on dira irréaliste, on dira impossible. Mais avant de finir, considérons la supériorité de la douceur sur la force. Et méfions-nous des apparences et comparons la force avec la douceur. La force paraît vigoureuse et la douceur paraît faible. La force est puissante à l'extérieur tandis que la douceur est forte à l'intérieur de l'homme. La force est une puissance visible. Elle fait craindre, mais la douceur travaille dans l'invisible. La force est pressée, elle est brutale, alors que la douceur prend son temps. Et c'est parfois ce que nous ne savons pas attendre. La force est tapageuse et dominante, mais la douceur silencieuse et pénétrante. La force, c'est le corps et l'âme humaine qui déploie ses énergies mentales, verbales, physiques, alors que la douceur, c'est l'Esprit de Dieu régnant dans un homme, agissant dans l'amour, la foi, l'humilité, la patience qui vient de ce que Dieu veut et qui n'est rien d'autre que sa volonté. C'est pas autre chose. Alors, regardons à Jésus. Ne regardons pas Pierre, mais regardons à Jésus et nous ne trouverons rien d'autre que ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ce qu'il a dit. Et vous savez ce qu'il a dit le Seigneur ? Je suis doux et humble de cœur. Voilà. Ça, c'est la devise des enfants de Dieu. Paul a dû intervenir dans les Corinthiens pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires ici? Vous allez même vous provoquer dans les tribunaux païens humains pour défendre des causes entre chrétiens. C'en était arrivé là, à Corinthe. Et quelquefois, je me demande si dans certaines églises, c'est pas ça aussi. Ben, moi, je dis que c'est une honte. Surtout entre chrétiens. C'est terrible une chose pareille. Je suis doux et humble de cœur. Nous devons être des agneaux. Parce que notre maître est un agneau. Parce que nous avons une force qui est supérieure au nucléaire et tout le reste. Mais bien sûr, parce que les grands vainqueurs, ce sont ceux qui sont animé de l'esprit de l'évangile et de l'esprit de Christ. Et pourtant, dès maintenant et à jamais, et c'est à son nom et à ses pieds que tout genou fléchira, parce que il nous a donné le secret, et son secret, c'est la puissance invincible de la douceur et de l'amour. Vous allez me dire, ce sont des belles paroles, on les a entendues ce matin. C'est vrai que ce sont des belles paroles, ça fait du bien, parce que dans un monde tellement de compression, ça fait du bien d'entendre cela. Mais il ne faut pas que ça demeure que pour dimanche 21 mai 2006. C'est de l'expérience à faire. Alors la conclusion. Ceci étant, quoi qu'il arrive, qui nous pousse à la peur, à la colère, aux représailles, à la discussion animée, à l'autodéfense, au jugement de ceci, au jugement de cela, sous quelque impulsion mauvaise, par la parole ou par les actes, souvenons-nous de ce que Jésus a dit à ses disciples dans cette circonstance, mais là, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 51, dans le même contexte, il leur a dit ceci. Quand ils ont voulu sortir l'épée, il leur a dit « Laissez arrêter ». Et peut-être que c'est une parole qui a besoin d'être agissante et opérante, à commencer par les couples qui se chamaillent. Pardonnez-moi. À commencer par les familles qui se chamaillent. À commencer également par les mésententes entre parents et enfants. Dans tous les conflits que nous pouvons avoir à l'extérieur, dans toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer d'une manière ou d'une autre, Jésus leur dit deux choses. Laissez et arrêtez. Arrêtez avec ça. C'est fini tout cela. Et à Pierre, il dira, comme si nous n'avions pas compris la première leçon de Luc, il va nous le dire dans Jean, remets ton épée dans ton fourreau. Renonce. Eh bien, là, à faire ce que tu avais pensé de faire. Alors, si nous parlons, alors parlons avec humilité et tendresse, avec nos frères et nos sœurs, avec les gens de l'extérieur, avec des mots qui guérissent et non pas avec des mots qui blessent. On peut tous le faire, frères et sœurs, moi je l'ai fait. C'est vrai, j'en suis conscient. Je l'ai fait quelquefois même sans m'en apercevoir. J'étais tellement convaincu de mon fait et que j'étais tellement sûr de moi, j'ai certainement envoyé des scuds, hein, ça c'est sûr, hein, ça je le sais. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons garder à la pensée que je dois toujours avoir et donner autour de moi des paroles qui guérissent et non pas des paroles qui blessent. Ça, c'est important. Si nous agissons, faisons-les dans un esprit de douceur et jamais d'agressivité ou d'emportement. Alors la vraie force aura gagné la bataille sans armes. C'est ça, justement. Le véritable sens à donner à notre méditation, c'est que la bataille est gagnée sans armes, mais elle est bien gagnée. Dernière parole de l'Évangile. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne de grandir dans l'amour de Jésus et dans l'imitation de Jésus-Christ. Amen.